Reste avec nous sur Europe 1 à partir de 17h, page spéciale consacrée à la situation en Israël avec de nombreux témoignages sur place, nos analyses, nos interviews. À tout de suite sur Europe.
Carrefour. Quand vous me dites les cerises, alors en clafoutis, en tartelettes, en sorbet ou simplement nature, j'adore. Eh bien, je vous réponds que les cerises rouges Origine France sont à 4,99€ le kilo. Alors rendez-vous dès demain et jusqu'à jeudi chez Carrefour, Carrefour Market et leur drive et sur votre appli Carrefour. Retrouvons tous le goût avec Act for Food. Carrefour, on a tous droit au meilleur. Catégorie 1, détails sur carrefour.fr.
TF1. Vibrez au rythme de la passion et des secrets d'un centre réputé de chant et de danse. Tout pour la lumière, votre nouvelle série quotidienne. Aujourd'hui à 18h sur TF1 et en streaming sur TF1+.
À tous ceux qui se retrouvent entre potes quand c'est soir de match, mais faites pas trop de bruit, il y a la petite qui dort à côté.
Et à ceux qui vont devoir apprendre à crier sur l'arbitre, mais en chuchotant.
Mais il y a faute là! Carton, monsieur l'arbitre, carton, monsieur l'arbitre!
Oh. Intermarché vous offre 80% en avantage carte sur tous les produits de la marque Pampers. Et c'est aussi sur notre appli.
Intermarché, tous unis contre la vie chère.
Jusqu'au 22 juin, des 30 euros d'achat et dans la limite de 40 euros, modalité sur intermarché.com.
Ford Pro.
Allez patron, j'y vais.
Attendez.
Oui.
Vous êtes branché, Benodier.
Ah bon, vous trouvez?
Mais non.
C'est vrai que je travaille mon style.
Non, le câble, c'est électrique. C'est le nouveau e-Transit Custom, Benodier.
D'accord, donc c'est nouveau.
Bah, oui.
Pendant les jours plus productifs Ford Pro, profitez de jusqu'à 4 696€ sur le nouveau e-Transit Custom 100% électrique avec la prime CEE.
Ford Pro.
Prime CEE en vigueur pour personnes morales éligibles. Voir conditions d'éligibilité sur Ford.fr.
Merci d'écouter Europe 1. Il est 17h, le flash avec Émilie Dez.
Bonjour à tous. Les gardiens de la révolution iranien appellent les habitants de Tel Aviv à quitter la ville immédiatement. Ils se disent prêts à une guerre longue et totale. Au moins 11 personnes ont été tuées la nuit dernière dans des frappes iraniennes sur plusieurs villes d'Israël. 24 personnes au total depuis vendredi, depuis le début de l'offensive israélienne en Iran. Le ministre de la Défense israélien a prévenu que Téhéran paierait le prix de ses frappes sur les civils. Israël qui appelle les habitants à évacuer le nord-est de Téhéran pour frapper des infrastructures militaires iraniennes. La menace sur Israël est une menace vitale, assure François Bayrou, le Premier ministre, qui estime que la guerre entre l'Iran et Israël peut avoir des conséquences immenses partout dans le monde. Cette guerre est d'ailleurs au cœur des discussions au G7 qui s'est ouvert hier soir. Les dirigeants réunis au Canada vont tenter d'envoyer un message commun. Les tensions géopolitiques se sont invitées au salon du Bourget. Le gouvernement français a interdit l'accès au stand israélien qui expose des armes offensives. Ces armements offensifs ne devaient pas être présents, assure François Bayrou, qui estime que la situation à Gaza impose de marquer réprobation et distance. Le ministre israélien de la Défense annonce une ségrégation. Notez que la ministre de la Culture, Rachida Dati, sera demain matin à 8h10 l'invité de la grande interview Europe 1 CNews. Un hommage national a été rendu ce matin aux deux pompiers morts la semaine dernière à Laon dans l'Aisne. Ils avaient été ensevelis sous des décombres alors qu'ils intervenaient lors d'un incendie. La cérémonie s'est déroulée sur la place d'armes de la commune de La Fère en présence de Bruno Retailleau. Il a loué leur courage et leur civisme engagé. Les deux pompiers ont reçu la Légion d'honneur à titre posthume. C'est aujourd'hui que s'est ouvert le procès du chauffard qui a tué la gendarme Mélanie Lemay après un refus d'obtempérer. C'était en juillet 2020 à Port-Sainte-Marie dans le Lot-et-Garonne. Le suspect de 31 ans est jugé pour violence ayant entraîné la mort et pour conduite sans permis et sous l'emprise de cannabis et de cocaïne. Il encourt la réclusion criminelle à perpétuité. L'ex-secrétaire d'État à l'éducation prioritaire, Nathalie Elima, a été condamnée à 10 mois de prison avec sursis, jugée pour harcèlement moral sur plusieurs collaborateurs. Nathalie Elima est aujourd'hui conseillère régionale en Île-de-France. Elle a aussi écopé d'une peine d'inéligibilité de 3 ans et d'une amende de 5 000 €. Et puis coup d'envoi ce matin des épreuves du bac. Plus de 530 000 élèves de terminale ont planché pendant 4 heures sur la philosophie. Parmi les sujets, la vérité est-elle toujours convaincante ou encore sommes-nous libres en toutes circonstances?
Europe 1.
Il est 13h04 sur Europe 1. La suite dont marche sur la tête, c'est maintenant.
Merci beaucoup, Émilie. On vous retrouve tout à l'heure à 17h30.
Europe 1, 16h-18h.
On marche sur la tête. Jean-Marc Morandini.
Édition spéciale d'On marche sur la tête jusqu'à 18h pour parler de la situation en Israël avec ces bombardements cette nuit qui ont touché plusieurs villes en Israël. Vous savez qu'il y a des victimes également en Israël dans plusieurs villes. On est avec toujours Mathias Leboeuf, Fabien Lecoeuf, Sarah Salman, Gauthier Lebret et on a été rejoint par Noémie Alioua. Bonjour Noémie.
Bonjour Jean-Marc.
Merci d'être avec nous. Vous êtes grand reporter au Moyen-Orient. Vous connaissez parfaitement la zone, vous connaissez parfaitement la région. On va vous entendre dans un instant, mais tout d'abord, je voudrais qu'on prenne un témoignage. C'est celui de Laura qui est en direct avec nous. Bonjour Laura, merci d'être avec nous. Vous habitez Tel Aviv. On avait eu l'occasion de parler ensemble vendredi, justement dans cette édition spéciale concernant la situation en Israël. Vous nous parliez du stress, de la tension que vous viviez au quotidien, mais cette nuit, les choses sont allées encore plus loin pour vous, puisque vous avez votre appartement qui a été soufflé par une explosion. C'est bien ça ? Laura, qui est normalement en direct avec nous et qu'on a perdu, donc la liaison est un peu compliquée avec Tel Aviv, on va la reprendre en direct dans un instant si elle m'entend. Laura, vous m'entendez ? Elle ne m'entend pas, c'est pas grave. Noémie, la situation à Tel Aviv, la situation à Jérusalem, la situation dans de nombreuses villes, c'est très compliqué quand même en Israël, parce que la population vit quelque chose qu'elle n'avait pas l'habitude de vivre jusque-là. Le fameux dôme de fer qui était au-dessus de ces villes-là, protégé totalement. Jusque-là, les villes de, que ce soit Jérusalem, que ce soit Tel Aviv, que ce soit Haïfa, qui sont touchées. Là, il y a des failles.
Là, il y a des failles, mais parce que ce ne sont pas du tout les mêmes gabarits de missiles. Ce ne sont pas les petites roquettes, entre guillemets, qui viennent du Hamas depuis Gaza. Ce sont des missiles balistiques qui viennent de l'Iran, qui ont traversé plus de 1000 kilomètres et qui, effectivement, ne sont pas toutes arrêtées par les systèmes de défense aérien. Il y a des trous dans la raquette, si je puis dire. Et vous avez vu que hier, ces images étaient impressionnantes. Vous avez un quartier entier de la ville de Bat Yam. Bat Yam, c'est à peine 4-5 kilomètres de Tel Aviv, donc vraiment une banlieue extrêmement proche, un quartier entier qui a été rasé. Et qu'est-ce qu'on voit à travers ces images et à travers sans doute le témoignage qu'on va entendre ? C'est une population qui est traumatisée, une population civile. Il faut bien comprendre que le régime iranien pilonne à l'aveugle. Il tire sur tout le territoire israélien du nord au sud. Et ça, c'est la grande différence avec la façon dont l'armée israélienne fonctionne depuis le début de cette guerre. Ce sont des frappes extrêmement stratégiques qui ont eu lieu à Téhéran. Vous voyez bien que ce sont des personnes spécifiques qui sont ciblées. Ce sont des scientifiques qui travaillent pour le programme nucléaire. Ce sont des gens qui participent activement à ce programme. Ce sont des entrepôts d'armes. Ce sont des rampes de lancement de missiles. Ce sont des à chaque fois que vous voyez ce qui est touché par l'armée israélienne, ce sont des endroits ou des personnes qui sont impliquées dans cette guerre. Or, le régime iranien, lui, il pilonne tout le territoire israélien du nord au sud, et ça depuis maintenant 4 jours.
Avec la volonté de semer la terreur, on a retrouvé Laura qui est à Tel Aviv. Laura, vous m'entendez ?
Oui, je suis là.
Super, Bonjour. Merci. Bonjour Laura, merci d'être en direct avec nous. Je le disais, on vous a parlé vendredi, et vendredi vous nous expliquiez qu'il y avait une certaine tension malgré tout, parce que c'était compliqué, les nuits étaient difficiles, et là les choses sont allées, hélas, encore plus loin pour vous, puisque c'est votre appartement qui a été soufflé cette nuit. Je rappelle que vous avez des enfants également, c'est ce que vous nous disiez vendredi. Et racontez-nous la nuit, racontez-nous comment les choses se sont passées.
En fait, ce que je vous expliquais vendredi, c'est que on vivait sous pression, mais c'est vrai qu'on avait ce côté-là où on se sentait quand même en sécurité parce qu'on sait qu'on a le dôme de fer, on sait qu'on a des abris, donc quand ça sonne, on va aux abris, on attend que ça passe et voilà, et on ressort. Et en fait, ce qui s'est passé hier, c'est que déjà ça a sonné plusieurs fois dans la nuit et l'alerte de 4h du matin, on a été prévenu par les groupes Telegram que ça allait être un peu plus violent. Et donc on s'était un peu préparé psychologiquement, mais on est en plein milieu de la nuit, on ne sait pas ce qui nous arrive, on est réveillé en sursaut par les alertes des téléphones. Et effectivement, nous on était dans notre abri et on a ressenti un boom qu'on a entendu qui a été traumatisant. Les fenêtres de l'abri ont explosé, ça nous a transpercé. Et en fait, avec mon mari, on s'est regardé et on s'est dit « Ok, l'immeuble a été touché, il n'existe plus rien autour de nous, on va sortir, ça va être le feu partout en fait, il va y avoir le feu, ça va être le vide, on n'a plus d'appartement, on n'a plus rien, mais on est en vie. » Voilà, on est en vie, on s'est rassuré comme ça. Moi, j'ai fait une petite crise de panique parce que j'ai vu mes enfants et que ça m'a traumatisée de me dire qu'à cause de moi, ils vivent ça. J'ai été traumatisée de ça et encore aujourd'hui, j'ai du mal à les regarder et à me dire que je leur ai imposé ça. Et depuis, en fait, on a reçu une énorme solidarité. Franchement, on est vraiment très, très entourés. Donc, Donc on essaye de faire avec, on tient le coup.
On entend, Laura, que c'est terrorisant pour vous, bien évidemment, mais on imagine pour les enfants d'entendre ces explosions, d'entendre ces chocs, et puis ils ressentent ce que vous ressentez également. Ils ont dû voir que cette peur, malgré tout, qui est humaine, hein, cette peur par rapport à ce qui se passait, comment est-ce qu'eux ont réagi ?
Alors, j'ai eu énormément de chance. Pour le boom, mes enfants ne se sont pas réveillés. Je ne sais pas par quel miracle, ouais. Ils ne se sont pas réveillés. Ils se sont réveillés au moment où on a dû descendre et évacuer l'immeuble, parce qu'on ne savait pas ce qui allait se passer. Il y aurait pu avoir une explosion aussi dans l'immeuble, ça aurait pu prendre feu. Donc, on est descendus, ils se sont réveillés à ce moment-là. Et en fait, donc mon petit dernier a à peine un an, donc j'ai pas pu en parler avec lui. Mais la grande a 3 ans et demi, j'ai essayé de la faire parler toute la journée. Effectivement, elle a vu des images. Donc, je ne sais pas si c'est des traumatismes qui sortiront plus tard, mais j'essaye de la faire parler. Elle n'arrête pas de me parler des morceaux de verre qui étaient partout et de son père qui a mis ses mains sur ses oreilles, parce que comme l'alarme sonnait très fort dans le hall d'immeuble, on a essayé de la protéger du mieux qu'on pouvait. Et donc ça, elle n'arrête pas d'en parler toute la journée, mais on essaye de lui faire sortir les images, en tout cas, qu'elle a en tête.
Et vous êtes dans quel état d'esprit, Laura ?
Je vous avoue, j'étais sous le choc ce matin. Comme je vous ai dit, j'ai fait une petite crise d'angoisse dans l'abri. Et à partir du moment où mes enfants se sont réveillés, j'ai pris une autre personnalité. On s'est mis en mode guerrier avec mon mari. Il faut qu'on trouve un nouveau logement. Il faut qu'on trouve de quoi mettre nos enfants à l'abri. Il faut qu'on les protège au maximum. Il faut qu'on avance. Il faut qu'on voit comment on va ranger cet appartement. Voilà, on s'est mis en mode guerrier. On a pris une autre facette. Maintenant, c'est vrai que là, j'appréhende. Mes enfants sont avec moi, on est dans l'appartement, donc on nous a gentiment prêté. J'appréhende la prochaine alarme. Je ne sais pas comment je vais réagir. J'ai très peur de ça parce que avant, je les prenais entre guillemets à la cool parce que je savais que j'allais me protéger. Là, j'ai peur d'entendre des booms. J'ai très peur. Donc, j'appréhende un peu cette nuit, mais de toute façon, on n'a pas le choix. L'espace aérien est fermé, donc on peut rien faire. On peut pas fuir. Il va falloir qu'on continue à se mettre à l'abri et à faire bonne figure pour les enfants et tenir le coup.
Et la peur, c'est la nuit qui arrive, bien évidemment, parce qu'après ce que vous avez vécu, on imagine à quel point vous devez avoir peur par rapport à cette nuit qui s'annonce. Votre appartement est totalement inutilisable, hein, vous ne pouvez pas y habiter. Il y a un gros mouvement de solidarité en Israël par rapport à ceux qui sont victimes, que ce soit des souffles ou carrément des missiles qui sont tombés sur les appartements. Il y a une solidarité entre vous, il y a une solidarité pour la nourriture, il y a une solidarité pour les logements, c'est important de le dire. Aussi, et Noémie Alioua avait une question à vous poser.
Oui, j'avais simplement une question un peu technique. Je voulais savoir s'il y avait un abri antimissile dans votre appartement ou dans l'immeuble. Alors, pour savoir s'ils étaient suffisamment hermétiques pour protéger la population, ou si les abris antimissiles, alors qu'il est vu le gabarit des missiles iraniens, ils n'étaient plus suffisamment protecteurs.
Alors non, on était tous dans les abris, et dans mon quartier, il n'y a aucun blessé. On a vraiment beaucoup, beaucoup de chance. Il n'y a aucun blessé parce que tout le monde était dans les abris. Et notre immeuble n'a pas été touché. En fait, il a été soufflé parce que c'était l'immeuble qui est à 3 mètres de chez nous. Je pense que si on n'avait pas eu l'abri, on ne serait peut-être pas debout aujourd'hui. Mmh. Honnêtement, on ne serait peut-être pas debout.
Y a eu des alertes dans la journée ou pas du tout ?
Aujourd'hui, non. Il y a eu des menaces, mais il n'y a pas eu d'alerte. Après, c'est vrai que c'est souvent la nuit. C'est pour ça que là, la nuit qui va pas tarder, ça commence à m'angoisser. Mais la journée, on a des menaces quand même. Hier, par exemple, on a eu une alerte à 16 heures. Donc on sait que ça peut quand même arriver, donc la pression est permanente.
La pression est permanente et on se dit aussi combien de temps la population va pouvoir supporter ça, parce que il y a cette volonté, enfin depuis plusieurs jours, moi je parle avec des personnes qui vivent en Israël et toutes ont le même discours en disant de toute façon on était obligé de passer par là, on était obligé d'attaquer l'Iran, c'était vital pour Israël, il fallait le faire, et en même temps il va y avoir j'ai presque envie de dire la pression physique qui va se poser, et c'est sur ça que veut jouer l'Iran, c'est sur la fatigue, sur la pression émotionnelle, sur le stress que vous pouvez rencontrer pendant ces nuits. Il va falloir tenir bon, Laura, c'est ça le plus dur en fait, il va falloir tenir bon parce qu'en plus vous n'avez pas le choix.
Il va falloir tenir bon, mais parce qu'on a pas, on parle de ça toute la journée avec mon entourage, mais on est tous d'accord sur une chose, c'est que là on y est, de toute façon on est en plein dedans. Pourquoi s'arrêter en plein milieu ? Autant y aller jusqu'au bout, autant voilà. Là, il faut y aller. On est prêt à tenir le coup pour que ça se termine, mais que ça se termine dans le bon sens.
Laura, on pense très fort à vous. Voilà, on pense très fort à vous. On pense très fort à vos enfants, à votre mari, et puis tous les gens qui sont dans la même situation que vous. Bien évidemment, qui est une situation terrible. Et je veux dire que je crois que quand on va entendre qu'il y a une alerte à Tel Aviv ce soir, on va forcément penser à vous. On va penser à ce que vous vivez. On va penser à cette peur. On va penser à vos enfants que vous devez prendre avec vous pour les mettre à l'abri. Et c'est des moments très difficiles. Mais voilà, ça vous apporte peut-être pas grand chose, mais on est vraiment de tout cœur avec vous, Laura.
Merci beaucoup.
Merci Laura, je vous embrasse et bon courage bien évidemment Gauthier, c'est vrai que c'est ce qui se passe là-bas. Il y a quand même une pression psychologique, parce qu'on parle beaucoup de l'aspect militaire, il est important l'aspect militaire, mais on oublie peut-être un peu la pression psychologique sur la population.
Et moi je suis très frappé par la dernière réponse de Laura, son appartement vient d'être soufflé et elle dit faut continuer, aller au bout, donc faut aller au bout de cette guerre avec l'Iran pour que l'Iran ne développe jamais de bombes atomiques. Donc on voit la résilience du peuple israélien qui a l'habitude de se prendre des roquettes sur la figure, normalement arrêtées par le dôme de fer, mais qui a l'habitude de ces alertes en permanence, il y a les applications, les téléphones portables et les abris. Et là, on voit que le dôme de fer n'arrête pas l'entièreté des missiles balistiques tirés depuis l'Iran. Et on voit qu'on a ce bilan humain qui s'alourdit jour après jour avec plusieurs maintenant dizaines de morts côté israélien et la volonté des Iraniens de cibler les populations civiles. Mais non, les Israéliens qu'on a au bout du fil, ils se font bombarder, mais ils disent il faut aller au bout, il faut aller au bout, il faut faire en sorte que les Mollahs n'aient jamais la bombe atomique, parce que le jour où ils ont la bombe atomique, on est peut-être entièrement rayé de la carte.
Et moi, j'ai envie de retenir une phrase que nous a dit Laura, une phrase qui est très forte, je trouve, c'est « on se transforme en guerrier ». Voilà. Ouais. Désormais,
ça, c'est les Israéliens.
C'est très fort, ça, Sarah Salman, c'est désormais... On est des guerriers, on s'est mis en mode guerrier avec mon mari, c'est
exactement ce que nous a dit. Mais ça, c'est vraiment les Israéliens. Il y avait une vidéo que je voyais sur les réseaux sociaux hier où ils étaient sous un tunnel. Enfin, c'était des voitures sous un tunnel. Il y a l'alarme qui a retenti et on voyait tout le monde en train de taper dans les mains et de danser. Et ça, il y a qu'en Israël que vous pouvez voir ça. Dans un pays, par exemple, comme la France ou ailleurs, il y aurait ça. Tout le monde se couche par terre, plus personne ne dit un mot. Ils ont une telle force, une telle résilience. C'est tellement un peuple fort que vous les mettez dans n'importe quelle situation, ils s'en sortent toujours. Et ce qu'on voit aussi, c'est qu'ils n'ont pas la volonté de fuir. C'est-à-dire que même si on ouvre l'espace aérien, vous avez beaucoup d'Israéliens qui vont dire « quoi qu'il arrive, moi je reste en Israël », voire l'écrasante majorité. Alors que dans un autre pays, s'il y avait une situation analogue, vous avez la plupart des gens qui diraient « je veux fuir parce qu'on est en temps de guerre ». Et ce n'est pas du tout le cas des Israéliens.
Oui, et Sarah, c'est vrai, avec qui j'ai pu parler également ce matin, Sarah disait « si c'était moi toute seule, moi je reste ». Voilà, je reste. Mais je pense à mes enfants et je culpabilise d'avoir à imposer ça à mes enfants, Noémie. Et c'est vrai que ça, on comprend.
S'entend.
Voilà, ça s'entend parce qu'on comprend cette opposition dans sa tête de dire je veux rester là parce que voilà je veux défendre Israël en étant présent, mais il y a mes enfants qui sont tout jeunes et je suis obligé de leur imposer ça.
Et c'est ce qu'on entendait aussi d'une certaine façon dans le témoignage de Laura, c'est-à-dire que il y a la guerre, mais il y a aussi la guerre psychologique, il y a le syndrome de stress post-traumatique qui se développe notamment chez les petits enfants qui eux-mêmes ressentent les émotions même parfois avant même d'avoir le langage pour pouvoir les formuler. Ils sont en train de comprendre de ce qui est en train de se passer autour d'eux et autour d'eux, eh bien c'est une guerre dont on ne sait pas exactement quels vont être les prochains épisodes. Donc c'est une situation qui est extrêmement traumatisante, mais effectivement je rejoins complètement Sarah Salman, c'est une population qui a une mentalité de fer, qui est extrêmement résiliente, extrêmement forte, surtout parce qu'elle sait aussi dans quel pays elle habite. C'est un pays qui depuis 1948, depuis la naissance de cet État, qui est menacé par un certain nombre de pays qui considèrent qu'il n'est pas légitime sur cette région du monde. Donc vivre en Israël, d'une certaine façon, c'est faire partie d'une forme de résistance, c'est considérer qu'on sait qu'il y a une partie du monde qui ne veut pas de vous, mais malgré tout, qui considère que c'est important de continuer à se battre. Donc ce sont tous des résistants, d'une certaine façon, les Israéliens.
Et tout à l'heure, on disait, dans cette édition spéciale sur Europe 1, on disait quelque chose de très juste, c'est-à-dire que d'un côté, vous avez l'Iran qui tape tout azimut et qui tape sur les civils, et de l'autre, vous avez Israël qui vise précisément, qui fait des frappes chirurgicales concernant des personnalités. Et en parlant d'Israël, et on l'entendait tout à l'heure également, Israël a appelé, par exemple, à 16h04, Israël a appelé les habitants à évacuer un arrondissement entier de Téhéran parce que ils vont bombarder. Donc, ils préviennent, ils disent « attention, on va bombarder là-bas ». Donc, si vous êtes des habitants dans ces quartiers-là, c'est le district 3, très précisément, district 3 de Téhéran, pour être précis, ils leur disent « voilà, partez, on va bombarder ». C'est l'opposé de ce que fait l'Iran. L'Iran tape les yeux fermés, Mathias Leboeuf.
Ouais, alors
allez-y, apportez la nuance.
Israël n'a pas toujours eu ses précautions.
Non, on parle de là, pas refaire l'histoire. Bah non, mais notamment, on est en train de parler du présent.
Notamment à Gaza, parce qu'à Gaza, il y a eu des bombardements.
Ils ont prévenu. Ils ont prévenu à Gaza aussi.
Encore une fois,
disons les choses. Ils ont prévenu à Gaza. À chaque fois, ils envoyaient même des tracts par les avions. Ils balançaient des tracts en
Gaza,
disant attention.
À Gaza, il y a plus de 50 000 morts qui appartiennent à la population civile.
Ça, vous reprenez les chiffres du Hamas.
Non, c'est des chiffres.
Non, mais vous reprenez les chiffres du Hamas. Excusez-moi, c'est les chiffres du Hamas.
Très bien. Juste une chose. Vous avez raison de relever que cette guerre est particulièrement dégueulasse, comme toutes les guerres. Mais à partir du moment où ça vise les populations civiles, bien évidemment que c'est affreux. Et que ça va créer des traumatismes énormes, encore une fois. Après, L'émotion, il faut être juste et qu'il y a deux poids, deux mesures. Moi, je suis toujours très choqué que...
C'est quoi les deux poids, deux mesures?
Bah, encore une fois, il y a eu, de la part d'Israël, des bombardements de populations civiles et...
Pas contre l'Iran.
Contre Gaza.
Oui, mais là, on est en train de parler d'Iran,
oui,
pour l'instant.
Oui, d'accord, mais...
Non, Gaza, je vous le redis.
Il y a une forme d'ironie, si vous voulez. Il y a une forme d'ironie tragique à avoir aujourd'hui la population civile israélienne. Et encore une fois, je m'en réjouis pas, bien évidemment. Je trouve ça...
C'est pas une ironie tragique. Attendez, vous avez complètement craqué, là.
Il y a une ironie tragique à voir...
Une ironie tragique parce qu'il y a des populations civiles israéliennes...
La population civile israélienne bombardée, alors qu'Israël, elle-même, a bombardé la population gazaouie.
Je le redis, c'est dommage que vous voulez.
Ça vous plaît, Mathias, ça vous plaît pas, mais forcément. Forcément.
Mathias Lebeuf. Israël a bombardé la population gazaoui, Israël a bombardé des terroristes du Hamas qui se sont servis de leur peuple.
Ils se sont servis des civils comme la
chair. Laissez-la parler.
Qui se sont servis de leur peuple comme de la chair à canon. Et c'est toute la tragédie des Palestiniens de s'être retrouvés dans des feux, évidemment, dans une tragédie absolue. Mais il faut bien expliquer que le Hamas s'est mué dans sa population et s'en est servi comme de la chair à canon. Il n'y a pas eu de volonté de la part d'Israël d'annihiler tout un peuple. Il s'agissait aux attaques du pogrom du 7 octobre 2023 et d'en finir avec une organisation terroriste qui malheureusement menace un pays à ses frontières. Et donc, si vous voulez, c'était une situation qui a été absolument tragique, mais il ne faut pas voir ça comme une volonté de la part de l'État israélien de bombarder, comme vous avez dit, de bombarder une population civile. Vous ne pouvez pas dire ça. Vous ne pouvez pas comparer une organisation terroriste avec un État.
Il faut se rappeler quand même comment agit le Hamas. Le Hamas a mis des lance-roquettes dans des écoles.
Dans les hôpitaux.
Ils les ont cachés dans les hôpitaux. Ouais. Donc forcément, quand vous voulez abattre et quand vous voulez faire tomber ces lance-roquettes, vous êtes obligé de viser ces endroits-là. Laissez-moi parler. Et je vous rappelle également, une fois de plus quand même, que Israël, à chaque fois, a prévenu les zones qui allaient être bombardées.
Jean-Marc.
Et si le Hamas n'avait pas pris la population de Gaza en otage, on n'en serait pas là.
J'entends bien.
Donc le seul coupable dans cette affaire, c'est le Hamas. Le Hamas qui a pris en otage la population.
Et dans ce que vous dites, on a l'impression qu'il y a un côté bien fait pour eux. C'est ça, moi, qui me gêne. Vous dites, vous dites ironie tragique, ma lecture. C'est ma lecture de ce que vous avez dit. J'ai l'impression qu'il y a un côté, c'est bien fait pour eux. Et ça, je ne dis pas que c'est votre cas, mais c'est toute la rhétorique antisémite qui dit toujours que c'est de la faute des Juifs.
Alors, Mathias Lebeuf, vous répondez tranquillement.
Ce n'est absolument pas ce que je dis. Et ce que je dis, c'est que, bien évidemment, le Hamas a utilisé une partie de sa population comme bouclier, très bien, et c'est absolument déplorable et c'est dégueulasse, mais quand vous avez l'armée israélienne sale qui rase des quartiers entiers à Rafah notamment, me dites pas que la population civile est pas ciblée.
On peut commencer une
assertion, mais il faut la terminer. Effectivement, il y a des quartiers qui ont été rasés, mais la population a d'abord été appelée.
Juste une chose,
laissez-moi répondre.
La population civile a d'ailleurs été appelée en amont, toujours à quitter les lieux pour se mettre en sécurité. C'est la preuve ultime qu'il n'y a pas de visée directement de la population civile.
Au passage, ce que je suis en train de dire.
C'est très important.
Ce que je suis en train de dire, parce que l'accusation d'antisémitisme, ce que je suis en train de dire, Elie Barnavi l'a dénoncé, Ehud Olmert l'a dénoncé, et voilà.
Mathias, qui est responsable de la situation? Est-ce que les responsables de la situation, c'est pas le Hamas? Est-ce que si le Hamas n'avait pas pris la population en otage, on n'en serait pas là? Est-ce que si le Hamas n'avait pas attaqué le 7 octobre, on n'en serait pas là?
Bien évidemment, et vous le savez, moi j'ai été le premier à dire que c'était une ignominie et que c'était un acte terroriste dégueulasse. Donc j'ai aucun souci là-dessus, bien évidemment.
Oui, mais c'est bien de le rappeler. C'est bien de le rappeler. Avant de dire que c'est Tzahal qui a bombardé une population civile.
Je le rappelle volontiers, mais ce que je dis, c'est que justement, on peut toujours tenter de faire autrement, et notamment...
Et comment vous voulez faire?
Justement, Israël, en Iran, fait autrement, puisque les cibles, les frappes sont ciblées.
En Iran, c'est pas la même situation.
Je sais bien,
le Hamas s'est mis au milieu de la population civile, comprenez-le. Le Hamas est caché dans les écoles, le Hamas est caché dans les hôpitaux. C'est ça qui est dégueulasse, et c'est pour ça qu'il y a autant de victimes parmi la population civile. Dénoncez-le, ça aussi.
Je pense
dites-le que c'est dégueulasse.
Je pense qu'on aurait pu faire autrement.
Mais c'est quoi autrement à part... Non, mais excusez-moi, je veux bien que vous soyez philosophe et que vous ayez de grandes idées
non,
comme ça.
Non, c'est pas...
Mais ça veut dire quoi faire autrement? Comment vous
raser,
voulez faire?
Ne pas raser des zones entières, faire des assassinats ciblés, voilà, ce genre de choses. Et encore une fois, ça, elle est tout à fait capable de faire ça.
Noémie Alioua et Fabien.
On parle d'élimination ciblée et à chaque fois, il s'agissait encore une fois de personnalités du Hamas à Gaza qui se cachaient parmi la population pour continuer à faire fructifier cette organisation terroriste qui d'ailleurs continue à vouloir la destruction d'Israël. Et peut-être, parce qu'on parlait de l'Iran juste avant, rappeler le contexte. Le 7 octobre 2023, il y a ce pogrom qui est opéré par le Hamas, d'accord ? Aujourd'hui, c'est l'Iran. Il faut comprendre le lien entre tout ça. C'est le régime iranien qui, pendant des décennies, a financé et armé des groupes terroristes au Moyen-Orient pour déstabiliser la région. Il faut remettre ça dans un contexte historique et revenir un petit peu au béaba. Donc le Hamas était en partie financé et armé par l'Iran, le Hezbollah au Liban également, les milices chiites en Syrie et en Irak également, et les Houthis du Yémen aussi qui... tous en même temps ont attaqué Israël. Donc c'est vrai que quand j'entends aussi de la part de certains responsables politiques de gauche expliquer que c'est Israël qui met le feu au Moyen-Orient, eh bien je me dis qu'ils ne suivent pas l'affaire, qu'ils ne savent pas de quoi ils parlent. C'est pas ce que vous avez dit, mais je trouve ça très important de ramener les choses à leur contexte pour comprendre pourquoi est-ce qu'elles ont lieu maintenant.
On va en reparler dans un instant. On continue cette édition spéciale sur Europe 1, bien évidemment, et puis on repartira en Israël. On sera avec Ruben qui a dû passer la nuit dans le métro en Israël parce qu'il n'avait pas d'abri. Et donc le seul abri possible pour lui, c'était le métro. Il sera en direct avec nous dans un instant. Merci d'écouter Europe 1, édition spéciale jusqu'à 17h, jusqu'à 18h pardon, sur la situation en Israël. Il est 17h26.
16h, 18h.
Jean-Marc Morandini sur Europe 1.
Bonjour, c'est Pascal Praud. Je suis heureux de vous retrouver sur Europe 1.
11h, 13h, Pascal Praud et vous.
Écoutez Europe 1, c'est être libre.
Oui, bonjour Pascal.
Ils nous ont déclaré la guerre. C'est insupportable d'entendre un discours pareil où on se voile la face et on ne fait rien.
C'est un plaisir de vous avoir et surtout un plaisir de vous écouter.
Europe 1, la radio libre.
Pascal Praud et vous.
Je vous donne rendez-vous demain de 11h à 13h sur Europe 1. Je compte sur vous.
Un impact à réparer, un pare-brise à remplacer? Avec Carglass, c'est simple, vous choisissez l'heure et le lieu qui vous conviennent le mieux. Et oui, vous pouvez choisir de venir en centre, mais on vient aussi chez vous. Et même sur votre lieu de travail, c'est où vous voulez. Chez Carglass, la solution la plus proche de chez vous, c'est aussi chez vous. Et jusqu'au 20 juin, pour toute intervention pare-brise, Carglass vous offre un aspirateur de voiture développé par Noroto. Alors, prenez vite rendez-vous sur carglass.fr ou appelez-nous gratuitement au 3044.
Carglass répare, Carglass remplace.
Conditions sur carglass.fr.
Claire, ce qu'elle aime dans la vie, c'est le verre et ce qui est offert. En fait, ce qu'elle aime dans la vie, c'est nous, Engie. Et oui, Claire, en ce moment et jusqu'au 12 septembre 2025, Engie vous offre 100 euros pour la souscription d'un nouveau contrat d'électricité ELEC référence 3 ans. Et bien sûr, c'est une électricité verte, certifiée à 100% par des garanties d'origine renouvelable. C'est pas super, ça, Claire? Appelez le 3443, service et appel gratuit. Voir les offres électricité éligibles et conditions de l'offre sur particulier.engie.fr. J'agis avec Engie. L'énergie est notre avenir. Économisons-la.
Salut, c'est BYD, le leader mondial et expert du véhicule électrique et hybride. BYD Dolphin Surf, la nouvelle citadine 100% électrique à partir de 19 990 euros. Du 11 au 30 juin, viens l'essayer et tente de la gagner. Voir conditions et règlements complets sur le site byd.com/fr. Jeu gratuit sans obligation d'achat. Au quotidien, prenez les transports en commun.
Quand votre déodorant à l'agonie vous dit dans un dernier soupir « Je fais de mon mieux, mais... » Je suis vraiment sur la faim. Pas de panique, votre nouveau déodorant est déjà en route. Il arrive demain avec Prime. Produit du quotidien, livré en un clin d'œil, c'est sur Prime. Sous réserve du respect des heures limites de commande.
Leclerc, bonjour.
Bonjour. Vous connaissez le proverbe « Quand l'abricot français bien sucré arrive en rayon, on se régale à la maison »
Non.
Normal, je viens de l'inventer, mais c'est vrai.
Ça, je vous crois. Surtout que du 17 au 21 juin, les abricots français sont à 2,79€ le kilo. Et chaque semaine, profitez en plus de 10% de tickets Leclerc sur tous les fruits et légumes à activer sur votre appli Mon Leclerc. Chez Leclerc, le goût du frais, ça se défend tous les jours. Catégorie 1, calibre 45-50mm, modalité et magasin participant sur www.e.leclerc.
L'édition spéciale consacrée à la situation en Israël se poursuit dans un instant sur Europe 1. On est ensemble jusqu'à 18h.
Europe 1, 16h-18h, on marche.
marcher sur la tête.
Donc là, si je fais un entretien chez vous, ça veut dire que...
Ça veut dire que vous repartez avec un an de garantie Toyota Relax.
Allez.
Un entretien est égal à un an de garantie, tout simplement. Même si vous êtes jamais venu chez nous.
Oh là là, 1 égale 1. Avec des maths comme ça, j'aurais eu 20 au bac.
Eh oui, un seul entretien dans notre réseau agréé Toyota suffit pour bénéficier d'un an de garantie Toyota Relax, même si votre véhicule est d'occasion.
Vous, vous êtes fort en maths ?
Ça va.
Toyota. Valable à l'issue de la garantie constructeur jusqu'au 10 ans ou 185 000 km de votre Toyota au premier des deux termes matin, voire conditions sur toyota.fr. Pensez à covoiturer ?
À tous ceux qui n'aiment pas spécialement se lever le matin, ni aller au travail, ni cuisiner tous les jours, ou se brosser les dents. Bref, à tous ceux qui trouvent que le quotidien, ça n'est pas assez bien pour être cher. Bah oui, je suis désolé, c'est surcoté le quotidien. Intermarché propose jusqu'à 1000 produits du quotidien à prix bas. Ah bah voilà ! Comme le paquet de 4 Liégeois chocolat pâturage, une marque Intermarché à 1,09€ seulement. Et c'est aussi sur notre appli.
Intermarché, tous unis contre la vie chère.
400 grammes, soit 2,73€ le kilo, transformé en France. Modalité sur intermarché.com.
Pour votre santé, limitez les aliments gras, salés, sucrés.
Ça ira. Chez Citroën, nous on ira. Ça ira. Nous, ce qu'on veut, c'est des prix bas.
Pendant les journées révolutionnaires, profitez de prix canon. Sur tous nos modèles Citroën, chez l'un de nos 1300 agents partout en France.
Ça ira. Des journées comme ça, on attendait que ça.
Citroën. Offre valable jusqu'au 30 juin dans le réseau d'agents participants.
Au quotidien, prenez les transports en commun.
Lidl, réélu encore et encore, meilleure chaîne de magasins de l'année dans la catégorie supermarché.
Allô patron ?
Du croustillant ?
Ah oui, en ce moment, les 4 baguettes croustilles dont une offerte sont à 2,85€.
72 centimes la baguette ! C'est une bouchée de pain ?
Bah on est mal.
Lidl est vraiment le moins cher et vous le prouve sur lidlestmoinscher.fr. 250 grammes, 2,85€ le kilo pour 4 baguettes, 3,80€ le kilo pour une baguette. Cuit sur place dans les supermarchés disposant d'un point chaud. Offre valable jusqu'au 18 juin. Plus d'informations sur lidl.fr. Pour votre santé, évitez de grignoter.
Ce mardi, jackpot record Euromillions de 250 millions d'euros. Et vous, quel millionnaire seriez-vous ? FDJ, montant à partager au rang 1, plafonné à 250 millions d'euros, voire règlement sur fdj.fr. Les jeux d'argent et de hasard peuvent être dangereux, perte d'argent, conflits familiaux, addiction. Retrouvez nos conseils sur joueurs-info-service.fr et au 09 74 75 13 13, appel non surtaxé.
Europe 1, le journal permanent.
Merci d'écouter Europe 1, il est 17h30, le journal permanent, Émilie Dez.
Le Premier ministre britannique Keir Starmer estime qu'il existe un consensus au sein du G7 pour un appel à la désescalade entre l'Iran et Israël. Les deux pays ont échangé de nouvelles frappes. Aujourd'hui, au moins 11 personnes ont été tuées dans des frappes iraniennes sur Israël, 24 au total depuis vendredi. De son côté, l'armée israélienne appelle les habitants à évacuer le nord-est de Téhéran pour frapper des infrastructures militaires iraniennes. De fortes explosions ont été entendues dans plusieurs secteurs de la capitale iranienne. La télévision d'État iranienne a été visée par une attaque israélienne. Les États-Unis demandent à leurs ressortissants de ne pas voyager en Israël, évoquant une situation imprévisible. C'est dans ce contexte que s'est ouvert aujourd'hui le Salon du Bourget, le plus ancien et le plus grand rendez-vous aérospatial au monde. Une édition marquée par la fermeture de stands israéliens qui présentent des armes offensives sur décision du gouvernement français. La situation à Gaza, moralement inacceptable, impose de marquer réprobation et distance, a assuré François Bayrou après avoir inauguré le salon. Bruno Retailleau a loué leur courage et leur civisme engagé. Maxime Prudhomme et Tanguy Mauzin, les deux pompiers morts la semaine dernière à Lens dans l'Aisne, ont reçu la Légion d'honneur à titre posthume. Un hommage national leur a été rendu ce matin. Les deux pompiers avaient été ensevelis sous des décombres alors qu'ils intervenaient lors d'un incendie. À la veille du conclave sur la fin du conclave sur les retraites, François Bayrou a proposé aux syndicats et aux patronats l'idée d'une prime pour les salariés seniors qui décideraient de rester au travail. Une partie de leur retraite leur serait versée en plus de leur salaire. Je suis persuadé que tout le monde peut y gagner, assure le Premier ministre qui se dit prêt à accorder quelques jours de plus aux partenaires sociaux pour qu'ils s'accordent. La vérité est-elle toujours convaincante ou encore sommes-nous libres en toutes circonstances ? Ce sont quelques-uns des sujets de philosophie proposé ce matin aux candidats au bac. Plus de 530 000 élèves de terminale ont planché jusqu'à midi avec au choix deux sujets de dissertation ou un commentaire de texte. Et puis attention aux feux de forêt dans les Bouches-du-Rhône et le Vaucluse. Ces deux départements du Sud-Est sont placés en vigilance orange. 9 feux sur 10 sont d'origine humaine et principalement liés à une imprudence.
Merci beaucoup Émilie. On vous retrouve demain.
Demain.
Belle soirée.
Merci, bonne émission.
Europe 1, 16h, 18h.
On marche sur la tête. Jean-Marc Morandini.
Et on marche sur la tête avec cette édition spéciale donc consacrée à la situation en Israël. Et je vous propose tout de suite de partir justement en direct à Tel Aviv où nous attend Ruben. Bonjour Ruben.
Bonjour, bonjour.
Merci beaucoup d'être en direct avec nous. D'abord, vous êtes dans quel état d'esprit à l'heure qu'il est ? Il est 18h33 à Tel Aviv, 17h33 à Paris. Vous êtes dans quel état d'esprit ?
Alors, l'état d'esprit, il est bon. On est fatigué. C'est vrai que c'est pas facile. Toutes les nuits, on est obligé de courir et d'aller se réfugier. Mais le moral est bon. On n'a pas vraiment le choix, en fait, de vivre.
Je suis toujours épaté par ce discours guerrier, j'ai envie de le dire au sens positif du terme, c'est-à-dire cette envie de se battre, quelle que soit la situation, alors que je ne sais pas comment nous on réagirait en France si une telle situation nous arrivait, mais vous avez une telle envie de vous battre, une telle volonté, c'est assez impressionnant, d'autant que votre nuit a été très compliquée, parce que vous avez dû passer une partie de la nuit dans le métro, c'est ça ?
C'est ça. En fait, les bâtiments à Tel Aviv ou dans certains quartiers sont très vieux. Et donc, en fait, il n'y a pas de salle sécurisée, de bunker. Et donc, on est obligé d'aller trouver d'autres endroits. Et l'endroit le plus sécurisé, c'est le métro. C'est le métro. Et en fait, on arrive là-bas et les gens viennent équipés avec des couettes, des coussins. Ils viennent en famille avec de l'eau, des provisions pour passer toute la nuit. Et en fait, c'est une ambiance très spéciale. C'est très tendu, tout en étant très familial, parce que les gens se retrouvent. Ils essayent de penser à autre chose, même si on entend quand même les sirènes, mais on sait que ça arrive. Mais c'est vrai qu'on essaye quand même de penser positif, et on sait que ce qu'on fait nous. C'est pour l'avenir. Il faut pas penser à soi personnellement, mais il faut penser au peuple pour les années à venir. Et donc, grâce à ces idées-là et à cette pensée, on arrive à passer ces moments difficiles.
C'est intéressant ce que vous dites, Ruben. C'est-à-dire que vous sentez, alors le mot investi est peut-être un grand mot, mais en tout cas, vous avez le sentiment d'avoir une mission. C'est-à-dire que ce que vous faites, c'est une résistance passive, j'ai envie de dire. Et vous avez le sentiment que vous faites ça pour les générations futures et pour l'avenir de ce pays, parce qu'autrement, sans ça, Israël pourrait disparaître s'il n'y avait pas eu cette attaque contre l'Iran, s'il n'y avait pas eu cette volonté de se battre et cette résistance. Vous avez le sentiment que c'est l'avenir d'Israël qui est en jeu aujourd'hui.
Bien entendu. On sait que si, par exemple, demain l'Iran acquiert la bombe atomique, Israël sera toujours sur le qui-vive, et que le moindre faux pas ou mauvais geste pourrait amener à une situation critique. Si Israël demain est attaqué par une bombe atomique, on est un petit pays avec 9 millions d'habitants. Ça serait catastrophique. Et donc, on sait que ce qu'on fait aujourd'hui, ça serait pour nos enfants, pour nos petits-enfants. Et donc, ça nous donne de la force. Comme vous l'avez dit, on est passif, mais tout en étant actif, parce qu'à la fin, la journée, on n'est pas en train de se terrer non plus chez nous. Moi, j'ai un café à Tel Aviv, donc je l'ouvre. Je sais que les gens viennent pour retrouver le moral, pour se retrouver entre amis, pour vivre comme on vivrait à Paris ou dans d'autres villes dans le monde entier. Et à partir de 19h, 19h30, tout le monde rentre chez soi et prêt un peu des abris.
Mais c'est assez incroyable ce que vous nous racontez, parce que ça veut dire que la vie continue à Tel Aviv. Les gens vont dans les cafés, je suppose qu'il y a des gens qui vont à la plage aussi, peut-être ?
Alors, à la plage, un peu moins. À la plage, un peu moins, parce que les abris sont quand même assez éloignés de la plage, donc les gens préfèrent quand même éviter la plage. Mais après, c'est vrai que dans la ville, il y a quand même une atmosphère assez compliqué, il y a une atmosphère très tendue. On sent comme une atmosphère pas de fin du monde, j'exagère, mais assez tendue. Donc les gens essaient vraiment de retrouver cette joie de vivre et de passer des moments quand même heureux, entre guillemets, même si c'est compliqué avec nos personnes qui décèdent. J'ai un ami qui a perdu son appartement hier parce qu'il a été soufflé par l'explosion. Donc c'est pas facile. Mais tous ensemble, on essaye vraiment de remonter le moral.
Merci beaucoup, Ruben, d'avoir été en direct sur Europe 1. Merci, parce que c'est important d'avoir les témoignages des gens qui vivent les choses. Parce que moi, je trouve qu'on est un peu trop dans la théorie, parfois, en disant, il y a eu 3 explosions, il y a eu 4 explosions. Et c'est pour ça que j'ai envie de vous donner la parole à vous, qui êtes en Israël, aux Juifs qui sont en France aussi, qui ont de la famille là-bas, qui sont inquiets pour tout ça. Merci, Ruben. On vous souhaite bon courage pour cette nuit qui... hélas, il y a assez de chances pour que ça s'annonce difficile également, parce que je pense que l'Iran va pas faire de pause tant qu'ils peuvent. Donc merci Ruben, et on pensera à vous également cette nuit.
Merci
d'avoir été en direct avec nous sur Europe 1. C'est vrai, Noémie Alioua, vous êtes toujours avec nous, grand reporter sur le Moyen-Orient. C'est vrai qu'on a du mal, nous, à se mettre à la place, en fait. Nous qui vivons en France, on a du mal à se mettre à la place.
Et pourtant,
avec cette volonté. Non, mais ouais. Avec cette volonté de se battre. Moi, c'est la résilience.
Parce qu'on est un très vieux pays qui a oublié ce que c'était que la guerre.
Ouais.
Mais c'est pas forcément une bonne chose. Il faut se dire. D'ailleurs, souvenez-vous que tu me diras si c'est bien le cas. Mais je parle à Gauthier Lebret. Le gouvernement a l'intention d'ailleurs d'envoyer à la population française un document pour expliquer comment s'organiser s'il y a demain une guerre sur le territoire, s'il y a demain des difficultés. Parce que notre pays
n'est pas. Mais vous savez que ça va finir dans un tiroir. Les gens vont même pas le lire en France.
Si vous voulez, notre pays n'est plus habitué à savoir ce que c'est qu'une menace, mais c'est pas forcément une bonne chose. C'est vrai qu'en Israël,
la menace islamiste,
la dernière fois qu'ils ont fait ça, c'était pour nous dire d'aller laver les mains pendant le Covid, quoi.
Oui. Mais enfin, si vous voulez, on est un vieux pays qui n'a plus l'habitude de cette menace-là, d'une guerre, de cet ordre-là. Les Israéliens sont complètement habitués, ils sont habitués à ça. Ce qui est intéressant dans le témoignage qu'on a entendu, c'est qu'il y a un consensus au sein de la société israélienne sur cette question, alors même qu'il n'y avait pas forcément de consensus sur la question de la gestion de la guerre à Gaza. Là, sur l'Iran, tout le monde est d'accord. Pourquoi ? Parce qu'on entend assez peu en France les grands discours des dirigeants iraniens, mais en Israël, ils les entendent tous les jours depuis des décennies. Les dirigeants iraniens appellent à éradiquer l'État hébreu depuis des décennies. Et donc l'idée qu'il s'approche d'une bombe atomique, et bien sûr que toute la population est pour cette guerre.
Et il faut dire une chose également, c'est que même si le Premier ministre était très contesté, on a vu des grandes manifestations en Israël contre Benjamin Netanyahou.
Sur la question de Gaza, c'est pas du tout.
Exactement, ça a été très contesté. Aujourd'hui, il y a une unité nationale. Oui. C'est-à-dire que tout le pays est uni en disant voilà, on se bat, on met de côté nos divisions, on met de côté nos oppositions, et on se bat. Tous ensemble.
Y compris l'opposition politique. Je lisais hier une interview de Yair Lapid, le chef de l'opposition en Israël, qui disait au Jérusalem Post « Binyamin Netanyahu est mon ennemi juré sur le terrain politique, mais sur la question iranienne, je suis d'accord avec lui ». Donc on voit bien qu'il y a effectivement un consensus au sein de la société, et même au sein de l'appareil sécuritaire, et même au sein de l'organisme politique.
Fabien Lecoeur.
J'avais une question à Noémie, puisqu'on a la chance de la voir sur le plateau cet après-midi, parce que qui a vendu. Parce qu'on est des millions à se poser la question, qui a vendu le nucléaire civil à l'Iran ? Parce qu'il y a quand même une responsabilité très importante pour l'avenir même de toutes les nations et de l'Europe. Qui a dit un jour, on va l'installer en Iran maintenant des centrales nucléaires, uniquement pour le civil, sans penser qu'en transformant finalement ce nucléaire civil, on peut le transformer en bombe atomique. Qui a eu cette idée en chef d'État français ? Est-ce que c'est la France qui a vendu les centrales nucléaires ? Est-ce que c'est l'Europe ? Qui a eu cette idée pour mettre en danger la planète, finalement, 30 ans plus tard.
Oui, alors c'est compliqué, parce que vous savez que le programme nucléaire civil a commencé avant l'avènement de la République islamique, c'est-à-dire que ça date même du Shah d'Iran.
Avant 1979.
Oui, mais le Shah d'Iran ne faisait pas peser une menace existentielle sur le Moyen-Orient, sur Israël, sur d'autres pays du monde. Donc ça a commencé au moment du Shah d'Iran, et ensuite la République islamique est arrivée au pouvoir en 1979, et là les choses ont basculé, et là les mollahs ont ciblé Israël en considérant que c'était l'État, d'ailleurs, ils ne reconnaissent pas, vous le savez, l'État d'Israël. Ils parlent toujours dans leur discours de l'entité sioniste qu'il faut éradiquer. Le guide suprême iranien Ali Khamenei parle toujours d'une tumeur cancéreuse. Donc, il faut écouter ces discours pour comprendre un petit peu quel est l'état d'esprit du régime iranien. Et à ce moment-là, effectivement, les choses ont évolué. Et il y a une très grande naïveté de la part des experts internationaux. Il faut comprendre que la veille de l'intervention israélienne, il y a eu une déclaration de l'AIEA, l'organisation onusienne qui est chargée d'expertiser les centrales et la question de ce nucléaire, qui ont considéré enfin, donc la veille de l'intervention israélienne, que l'Iran ne respectait pas ses engagements en matière de non-prolifération. En bref, que le régime iranien produisait du nucléaire militaire et non pas du civil.
Et que c'était alarmant.
Voilà, et que c'était alarmant. Il y a une condamnation unanime internationale, c'est ce dont a parlé le président de la République ensuite dans son allocution le soir.
Donc il y a eu une grande naïveté internationale.
Dans un instant, Gauthier, on parlera avec vous de ce qui se passe au Bourget.
Absolument. Parce que
ça, c'est intéressant, le salon international de l'aéronautique, où on a le sentiment qu'il y a un aller-retour de la part des autorités françaises, qu'on comprend pas très bien, parce qu'on a autorisé Israël à venir et à exposer. Et puis tout à coup, au dernier moment, on leur dit, mais non, en fait, vous pouvez exposer, mais pas d'armes offensives. Et puis surtout, on monte des murs noirs autour des stands. Enfin, on est un peu chez les dingues, quand même. On est en direct avec Mathias Inbar, qui est journaliste à I24 et spécialiste des questions militaires. Bonjour Mathias, merci d'être en direct avec nous. Je voulais vous avoir parce que c'est vrai qu'on se dit qu'il y a une pluie de missiles qui est tombée la nuit dernière, la nuit précédente sur Israël. On a un peu peur que ça recommence cette nuit, mais pendant combien de temps Israël va pouvoir l'Iran va pouvoir tenir ce rythme de bombardement? Parce que je pense que les stocks de missiles ne sont pas inépuisables.
Et vous avez parfaitement raison, sachant qu'en plus, l'armée israélienne est très claire, un tiers des stocks de missiles balistiques a été détruit, et que Israël, actuellement, s'efforce de frapper en premier lieu les rampes de lancement. Et on assiste à des scènes assez surréalistes. Ça se passe en Iran, quand même, à plus de 1500 kilomètres. Il faut le comprendre que les pilotes en l'air, puisqu'il y a un couloir aérien opérationnel qui est libre pour les pilotes israéliens, eh bien, ils détectent parfois quelques secondes avant les tirs. Les missiles sont parfois entourés de plastique, ils sont neufs, avant d'être tirés. Et tout à l'heure, par exemple, entre 10 et 20 missiles balistiques ont été détectés par les pilotes israéliens en l'air et neutralisés avant d'être tirés. Et donc, en quelque sorte, oui, l'Iran a des missiles, mais si les rampes de lancement sont touchées les uns après les autres, c'est comme si vous aviez finalement une voiture, mais sans moteur, ça ne fonctionne pas.
Mathias, moi, ce qui m'inquiète un petit peu, je me dis, à partir du moment où l'Iran n'aura plus ses missiles qu'elle tire en ce moment, est-ce qu'il y a des armes supérieures? Est-ce qu'il y a des armes qui sont encore plus destructrices que pourrait utiliser l'Iran? Est-ce qu'ils en ont?
Alors là aussi, vous posez une bonne question, parce que c'est une question que j'ai posée en briefing sécuritaire tout à l'heure. On a eu un briefing militaire avec un officiel de l'armée israélienne. Est-ce que oui ou non, on peut éventuellement voir l'Iran utiliser des bombes, ce que l'on appelle des bombes sales, actuellement des missiles balistiques ou des bombes sales? La réponse est pour l'instant non, mais on n'exclut pas effectivement que, vous savez, il y a un précédent, Saddam Hussein en 1991, et qui a tiré des scuds et qui avait la possibilité de tirer des bombes scuds aussi avec du gaz moutarde à l'intérieur, ce qu'il avait fait lui-même contre sa propre population à l'époque en Irak. Donc ce n'est pas impossible, mais c'est suivi de près par le département stratégique de l'armée israélienne.
Mais avant de savoir s'ils peuvent les utiliser, j'ai envie de dire ma première question, c'est est-ce qu'ils en ont ?
Ils ont des produits toxiques, ils ont des bombes sales. Ça, c'est une certitude. Est-ce qu'ils sont capables de les utiliser au niveau technique? Oui. Au niveau de la décision politique, vraisemblablement, ça serait l'entrée, ça serait la signature de l'entrée en guerre des Américains également au passage.
Ça veut dire que les Américains interviendraient à ce moment-là si l'Iran utilise des bombes sales. Les Américains ne laisseraient pas faire.
Je ne suis pas à la place, bien évidemment, ni de Pete Hegseth, qui est le secrétaire d'État à la Défense américaine, ni de Donald Trump. Il me semble quand même, déjà, après avoir discuté avec des officiels de l'armée américaine cette nuit, lorsque l'ambassade américaine à Tel Aviv a été légèrement impactée et que des cibles américaines ont été impactées également en Irak, que le ton monte du côté des États-Unis. C'est peut-être aussi la raison pour laquelle, je suppose que vous avez suivi aujourd'hui, l'Iran promet d'infléchir ses positions des négociations en cas de cessez-le-feu immédiat. On joue aussi du côté de l'intox, du côté des Iraniens. Mais oui, il me semble effectivement que si jamais l'Iran utilisait des bombes sales, eh bien ça serait extrêmement mal perçu du côté de la défense américaine. Mais on n'en est pas encore là. Ce qu'on dit, en revanche, c'est que l'une des armes aussi du côté de l'Iran, ça serait aussi la fermeture du détroit d'Ormuz. Il y a des précédents dans l'histoire, notamment la fermeture du canal de Suez par les Égyptiens en 1956. On en est encore loin là aussi, mais ça fait partie des armes psychologiques et économiques des Iraniens.
Dernière question, Mathias Inbar sur Europe 1. Est-ce que vous êtes inquiet pour la nuit qui vient ?
Malheureusement, oui, parce qu'on est inquiet, mais en même temps, bien évidemment, ça faisait partie du plan opérationnelle de l'armée israélienne en frappant l'Iran. L'armée savait qu'il y aurait des répercussions, mais à partir du moment où la nuit tombe, l'Iran frappe des missiles. Il y a moins d'une heure de cela, je peux vous dire que sans l'intervention de l'armée israélienne au cœur du centre de l'Iran, eh bien, il y avait entre 15 et 20 missiles qui auraient été tirés. Donc ça veut dire qu'il reste encore du stock du côté des Iraniens. Et oui, l'Iran va tirer encore cette nuit dans le centre, dans le nord du pays. Cette catastrophe, vous l'avez suivi sans doute, ces missiles balistiques qui sont tombés contre les industries de pétrochimie à Haïfa. Mmh. C'était le cauchemar des responsables sécuritaires depuis la guerre avec le Hezbollah. Encore une fois, on en a la preuve. L'Iran vise des zones urbaines, pendant qu'Israël vise avant tout des centres militaires et nucléaires.
Merci beaucoup Mathias Inbar d'avoir été sur Europe 1, journaliste à I24, spécialiste des questions militaires. C'est toujours très précis et très éclairant de vous avoir en direct sur l'antenne. Mathias Inbar, merci beaucoup. Gauthier Lebret, je voudrais qu'on revienne quand même sur ce qui se passe au Salon international de l'aéronautique et de l'espace. On a le sentiment qu'il y a des allers-retours de la part du gouvernement. Peut-être on va rappeler la situation et pourquoi il y a cette confusion depuis ce matin.
Alors, Israël, normalement, pouvait exposer au Salon du Bourget et depuis ce matin...
Salon de l'armement, donc.
Voilà, le Salon de l'armement. Et depuis ce matin, certains stands ont été bâchés de noir. Et comment le gouvernement français l'explique, hein, parce qu'il y a eu une réaction du Premier ministre François Bayrou, et c'est sur décision du gouvernement français que certains stands de la délégation israélienne ont été bâchés, c'est les fameuses armes dites offensives. Alors une arme, souvent, elle peut être offensive et défensive, hein, ça dépend si vous attaquez ou si on vous attaque. Hein, bref. Et donc ces armes définies comme offensives ont été bâchées et la délégation israélienne ne peut plus exposer ces fameuses armes offensives. Et alors, je ne sais pas si vous avez vu la manière dont laquelle la délégation a répondu. Elle a dit, si vous voulez voir à quoi servent nos armes offensives, puisqu'on ne peut pas les exposer, regardez sur ce qui se passe. Regardez ce qui se passe en ce moment sur le front iranien.
Mais juste Gauthier, à quoi joue le gouvernement ?
C'est-à-dire que c'est le fameux pas de deux, c'est le en même temps. En plus, ça intervient dans un moment où il y a la guerre qui est déclarée entre Israël et l'Iran, où le gouvernement fait du en même temps. On ne condamne pas les frappes israéliennes, mais on demande en même temps que ça s'arrête le plus rapidement possible. On sent le malaise du gouvernement français, du Quai d'Orsay, de la diplomatie française, d'Emmanuel Macron lui-même, depuis un bon moment sur la question de la guerre entre Israël et le Hamas, et là aussi entre Israël et l'Iran. Donc ça résulte d'un malaise. Au début on dit oui, on va pas boycotter Israël comme le rêve l'extrême gauche, et au final on met le nez dans les stands de la délégation israélienne, et ça on dit oui, ça on dit non, et donc on se trouve avec des grandes bâches.
Mais ça c'est surréaliste. Enfin, moi j'ai vu les images de ces grandes bâches noires qui sont montées devant les stands. Enfin, ça paraît totalement dingue.
Oui, et puis donc le gouvernement israélien a condamné la décision du gouvernement français de cacher certains stands d'Israël. Voilà.
Mathias Lebas, vous pensez quoi de la position française là-dessus ?
Moi, je pense qu'elle est floue. Effectivement, il y a une valse à deux temps qui est illisible, ce fameux en même temps. C'est pas compréhensible. Donc, il faut prendre une position claire. Soit on autorise, et très bien, et il n'y a pas de souci. Soit on dit, non, il y a un risque d'embrasement ou de déco, et à ce moment, on dit pas de stand israélien. Mais moi, ce qui me choque, c'est cette espèce d'hésitation, de demi-mesure, de valse hésitation à deux temps. Et au final, on s'aperçoit que derrière, il n'y a pas de position diplomatique clair, parce que c'est ça. En fait, il y a une espèce d'hypocrisie, effectivement, comme le dit Gauthier, qui est nocif, quoi, néfaste.
Et François Bayrou dit il faut une certaine distance par rapport à la présence d'armements offensifs israéliens au Salon du Bourget. Comme ces armements offensifs n'ont pas été retirés, on a provisoirement, j'espère, fermé les stands. Enfin.
Oui, quand ça, provisoirement ? Ça veut dire qu'on va les rouvrir demain ?
S'ils tombent d'accord, ils essaient de trouver un accord, visiblement. Noémie, comment vous réagissez ?
C'est du ségrégationnisme. C'est du ségrégationnisme qu'on ne voit pour aucun autre pays du monde. On ne fait ça pour aucun autre pays du monde. C'est là qu'on voit effectivement que c'est purement idéologique, parce que sinon il y aurait une loi pour tous les pays qui sont en guerre. Et à l'heure où Israël se prend des missiles iraniens sur la figure, on a entendu la population, 10 millions de personnes qui sont actuellement sous le feu des bombes iraniennes. On décide, nous en France, de considérer que c'est Israël l'ennemi et que c'est Israël qui doit être mis sur le banc des nations. J'ai honte, bien sûr j'ai honte. J'ai honte de mon pays qui n'est pas capable d'avoir une politique étrangère, une position qui est ferme, qui est lisible, qui est claire. Emmanuel Macron fait du macronisme, il fait du en même temps. Le lundi, il pense quelque chose. Le mardi, il pense l'inverse. Et on réussit à se brouiller comme ça avec la planète entière.
C'est très honteux. Dur de dire j'ai honte.
Hein. C'est honteux. J'ai honte, bien sûr. Alors attention. Moi, je fais la distinction entre le président de la République et la France. Moi, j'ai pas honte de mon pays. Je sais que mon pays est un beau pays, un grand pays.
Vous mais avez par contre, honte des positions.
J'ai honte de la diplomatie française. J'ai honte de la diplomatie française,
merci
malheureusement.
Merci beaucoup.
Depuis de nombreuses semaines.
Merci Noémie. Merci d'avoir été avec nous. Merci à tous. On se retrouve demain, il paraît. Donc j'ai appris pendant l'émission. Donc on se retrouve demain à partir de 16h sur Europe 1. Merci beaucoup. À demain.
Cette semaine, votre radio préférée réunit la grande famille Europe 1.
Une semaine exceptionnelle.
Tous les jours, tout au long de la journée,
venez rencontrer vos animateurs.
Découvrez comment les journalistes travaillent et préparent l'information libre que vous entendez. Europe
1. Assistez aux émissions, pénétrez dans les coulisses
et célébrez les succès d'Europe 1.
Entrez dans la grande famille Europe 1.
Pour en savoir plus et découvrir le programme,
rendez-vous sur europe1.fr.
Rubrique Club Europe 1.
Pour donner aux parents plus de contrôle sur les applications que leurs ados téléchargent, Instagram demande une réglementation européenne. Cette réglementation exigerait la vérification de l'âge et un accord parental sur l'App Store. Plus d'infos sur instagram.com/accord-parental.
Les chèques vacances de la NCV vous offrent ce moment d'évasion en attendant vos congés. Avec plus de 120 000 partenaires, les chèques vacances vont donner vie à vos envies. Rendez-vous vite sur le guide.ancv.com. L'évasion commence ici.
TF1. Vibrez au rythme de la passion et des secrets d'un centre réputé de chant et de danse. Tout pour la lumière, votre nouvelle série quotidienne. Aujourd'hui à 18h sur TF1 et en streaming sur TF1+.
Ça a glissé, la voiture se retrouve dans le fossé.
Quand Stéphane a eu son accident, Maxime, son agent mutuel de Poitiers, était là pour lui.
Je lui dis, écoute, t'inquiète pas, on va gérer ça ensemble. T'es pas tout seul, en fait.
Et là, à partir de là, déjà, la pression commence à redescendre, quoi.
C'est un père de famille, il a sa femme, sa fille sur le bord de la route. On se met à leur place parce qu'on les connaît et qu'on les voit plusieurs fois par an. Donc, c'est à partir du moment où on les connaît le mieux qu'on les assure le mieux, quoi.
Et c'est ça le gros point fort, en fait. Je suis une personne, je suis pas un numéro de contrat.
Mutuelle de Poitiers Assurance, votre assureur vous connaît. Et pour vous, ça change tout.
À tous ceux qui se retrouvent entre potes quand c'est soir de match, mais faites pas trop de bruit, il y a la petite qui dort à côté.
Et à ceux qui vont devoir apprendre à crier sur l'arbitre, mais en chuchotant.
Mais il y a faute là ! Carton, monsieur l'arbitre, carton, monsieur l'arbitre !
Oh. Intermarché vous offre 80% en avantage carte sur tous les produits de la marque Pampers. Et c'est aussi sur notre appli.
Intermarché, tous unis contre la vie chère.
Jusqu'au 22 juin, des 30 euros d'achat et dans la limite de 40 euros, modalité sur intermarché.com.
Sans jugement ni tabou, la Libre Antenne, c'est un moment d'échange et de partage, 7 jours sur 7, juste après le journal de 22h sur Europe 1. Retrouvez dès maintenant tous les replays de la Libre Antenne sur toutes vos plateformes d'écoute, le site et l'appli Europe 1. La Libre Antenne, 7 jours sur 7 sur Europe 1.
Donc là, si je fais un entretien chez vous, ça veut dire que...
Ça veut dire que vous repartez avec un an de garantie Toyota Relax.
Allez.
Un entretien est égal à un an de garantie, tout simplement. Même si vous n'êtes jamais venu chez nous.
Oh là là, 1 égale 1. Avec des maths comme ça, j'aurais eu 20 au bac.
Eh oui, un seul entretien dans notre réseau agréé Toyota suffit pour bénéficier d'un an de garantie Toyota Relax, même si votre véhicule est d'occasion.
Vous êtes fort en maths ?
Ça va.
Toyota. Valable à l'issue de la garantie constructeur jusqu'au 10 ans ou 185 000 km de votre Toyota au premier des deux termes matin, voire conditions sur toyota.fr.
Pour les trajets courts, privilégiez la marche ou le vélo.
Carrefour. Chez Carrefour, pour deux boîtes de glace nuit achetées, la troisième est offerte. Et c'est valable sur toutes les boîtes de glace nuit. Alors rendez-vous dès demain et jusqu'au 23 juin chez Carrefour, Carrefour Market et leur drive.
Carrefour, on a tous droit au meilleur. Au rayon surgelé, selon disponibilité en magasin, panachage possible, la remise s'applique sur le moins cher. Détails sur carrefour.fr. Pour votre santé, bougez plus.
Cofidis présente projet numéro 7, le projet qui reste sur le carreau.
Oh non,
vous en avez assez des rêves qui se brisent. Avec Cofidis, c'est simple pour financer vos projets. Jusqu'au 30 juin, Cofidis propose un prêt personnel à taux exceptionnel. Et c'est pendant deux semaines seulement sur cofidis.fr. Cofidis. Le crédit qui fait la différence. Délai légal de rétractation.
Leclerc, bonjour.
Bonjour. Vous connaissez le proverbe, quand l'abricot français bien sucré arrive en rayon, on se régale à la maison ?
Non.
Normal, je viens de l'inventer, mais c'est vrai.
Ça, je vous crois. Surtout que du 17 au 21 juin, les abricots français sont à 2,79€ le kilo. Et chaque semaine, profitez en plus de 10% de tickets Leclerc sur tous les fruits et légumes à activer sur votre appli Mon Leclerc. Chez Leclerc, le goût du frais, ça se défend tous les jours. Catégorie 1, calibre 45-50 mm, modalité et magasin participant sur www.e.leclerc.
Ford Pro.
Allez patron, j'y vais.
Attendez.
Oui.
Vous êtes branché, Bénodier.
Ah bon, vous trouvez?
Mais non.
C'est vrai que je travaille mon style.
Non, le câble, c'est électrique. C'est le nouveau e-Transit Custom, Bénodier.
D'accord, donc c'est nouveau.
Bah, oui.
Pendant les jours plus productifs Ford Pro, profitez de jusqu'à 4 696€ sur le nouveau e-Transit Custom 100% électrique avec la prime CEE. Ford Pro. Prime CEE en vigueur pour personnes morales éligibles. Voir conditions d'éligibilité sur Ford.fr.
Punchline, 18h-19h, Laurence Ferrari sur CNews et Europe 1.
Bonsoir à tous et bonsoir à toutes, bienvenue dans Punchline sur CNews et sur Europe 1. Aujourd'hui, comme hier et avant-hier, Israël a été bombardé par le régime iranien, tout simplement car l'État hébreu effectue le travail que nous aurions dû faire, celui d'affaiblir la capacité de nuisance d'un régime théocratique parmi les plus meurtriers au monde et qui s'apprête à disposer de l'arme atomique. Une république islamique qui n'a de république que le nom, qui assassine ses jeunes filles lorsqu'elles refusent de porter le voile, qui emprisonne et torture ses jeunes hommes quand ils tentent de se rebeller contre les monstres armés que l'on nomme gardiens de la révolution. Hommage à ces jeunes Iraniens courageux qui ont osé se lever et qui l'ont payé de leur vie. Une fois de plus, c'est la survie du seul État démocratique du Moyen-Orient qui est en train de se jouer. L'Ayatollah Khomeini a toujours réclamé depuis les